With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 603 du podcast Déjà en Actu. Victor Roulier au micro pour vous parler de top 50, un top 50 concocté par Grégory Richard et dont nous allons parler avec Jean-Michel. Bonjour à toi.
Hey, salut Victor, bonjour tout le monde.
On disait top 50, c'est nos deux derniers épisodes, on va dire, globaux sur la draft, puisqu'après vous allez avoir, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, 32 pastilles pendant 32 jours, évidemment, une pastille par équipe, où on ira plus en détail sur les besoins des équipes, puisque la Free Agency a eu lieu, et que maintenant, on y voit un peu plus clair ou pas dans la stratégie de certaines équipes. Jean-Michel, on disait, il y a un top 100, d'ailleurs, qui va sortir dans pas longtemps, qui a été fait par Grégory Richard. Et nous, évidemment, on ne va pas débattre joueur par joueur, parce que ce serait très long et que ça ne serait pas forcément productif. Mais tous les 5 joueurs, on va se poser une petite question sur un joueur qui nous étonne, un joueur qui nous intrigue, un joueur qu'on verrait peut-être un peu plus haut vers le premier tour, un peu plus bas vers le troisième. On va débattre de tout ça. Et on va commencer tout de suite. Alors, le 50e, c'est Clark Phillips, cornerback. Le 49e, Derek Hall, edge. Le 48e, Cody Mauk, le lineman offensif. Le 47e, Emmanuel Forbes, le cornerback. Le 46e, Will McDonald, le edge. Écoute, dans ces 5-là, il y en a un qui nous a un peu intrigués, et c'est en préparant l'émission, on en a parlé. Emmanuel Forbes, dans cette QV de cornerback, QV XXL, hein, je pense qu'on peut le dire, est-ce que Emmanuel Forbes pourrait être la surprise du premier tour? Alors, pas dans le top 15, évidemment, mais dans la fin du premier tour, est-ce que pour toi, ce joueur aux instincts meurtriers, dans le bon sens du terme, pourrait justement se hisser vers cette fin de premier tour qui ne comporte que 31 choix, on le rappelle.
Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est ses instincts. Je veux dire, c'est incroyable. Le gars, cette année, il a encore fait 6 interceptions. Voilà, et sur les 6 interceptions, il en tourne 3 pour un touchdown. Donc voilà, qu'est-ce qu'on demande à un cornerback? On lui demande d'empêcher la réception par le receveur. Après, ce qui est encore mieux, c'est s'il arrive à intercepter le ballon. Et le top du top, c'est s'il intercepte, il le ramène pour un touchdown. Ben lui, voilà, il a fait 3 fois en 2022. 6 interceptions en 2022, mais il en avait fait aussi 3 en 2021 et 5 en 2020. C'est un spécialiste, il a 14 interceptions en 3 saisons, c'est incroyable. Et puis voilà, il vient de Mississippi State, hein. Je veux dire, il a eu de sacrés gros opposants en conférence SEC, qui est la meilleure conférence universitaire. C'est pas comme s'il avait fait cette performance contre des pimpins. Donc forcément, ça intrigue, c'est vraiment un cornerback. Tu te dis, voilà, il a tout le talent du monde. Et puis on l'a vu au NFL Combine. Oui, je sais, le sprint, le 43 yards, parfois c'est un petit peu décrié, etc. Mais bon, s'il y a bien deux positions sur le terrain où il faut savoir sprinter 20, 30, 40, ben, c'est receveur et cornerback. Et donc lui, son temps de 4.36, ben, ça montre qu'il est très rapide et ça peut servir aussi en match. Donc quelque part, il a tout ce qu'il faut. Enfin, tout. Ben non, pas tout. Déjà, ce qui est interrogé au combine, c'est de voir son poids. Le gars, il fait 75 kilos. 75 kilos, ok, pour toi et moi, ça serait un bon poids, mais pour un cornerback à NFL, il va se faire bouger, c'est obligatoire. Il va tomber sur des receveurs qui, en presse, vont juste lui envoyer les bras dessus, puis ça y est, il sera perturbé dans sa course, il pourra pas suivre le receveur. Donc, c'est pour ça qu'il interroge, parce que s'il avait, disons, le gabarit, je vais même pas chercher Christian Gonzalez, mais ne serait-ce que le gabarit d'un Deontay Banks, on se poserait même pas la question. On dirait, voilà, ce cornerback, il a tout, forcément, c'est un premier tour. Là, se pose la question.
Oui, c'est un peu le syndrome d'Evonta Smith. Alors, c'est vrai que ce qui a un peu surpris les gens, c'est que Devonta Smith, par exemple, on savait avant le combine. C'est-à-dire que toutes ces mesures, on les avait. Forbes, il était présenté par Mississippi State à 81 kilos. Là, il en fait 75. Ça fait quand même une grosse différence. Donc, c'est vrai que on peut se demander si c'est pas le joueur qui va se prendre un mur en NFL, dans le sens où, oui, comme tu as dit, je crois qu'il y a 13 interceptions en 3 saisons, c'est absolument incroyable.
14, ouais. Bah.
Ouais, mais pas seulement des interceptions d'ailleurs. On voit qu'il a concédé 20% de passes du coup concédées en homme à homme. Donc c'est vraiment un mec, c'est un miroir, il sait bien jouer et il est excellent. Après, 75 kilos, ouais, il va souffrir. Il risque de souffrir face à des mecs en face de lui. Tu mets A.J. Brown en face de lui, au moment où il va falloir jouer de 50-50, il va falloir se lever tôt. Alors évidemment, il n'y a pas que des A.J. Brown dans la ligue, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il prenne un peu de masse. C'est-à-dire, s'il peut revenir aux 80 kilos qui étaient annoncés, ça pourrait être pas mal pour lui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait un peu de problème, parce que sur le terrain, il est excellent. Il est excellent. Peut-être un petit défaut au plaquage, hein, encore à travailler. Mais enfin bon, malheureusement, c'est le lot de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cornerbacks aujourd'hui. Mais en tout cas, à suivre. Aujourd'hui, je disais, il est 47e, donc pas si loin que ça du premier tour. Est-ce qu'il sera une surprise? On le verra à ce moment-là. On en revient 45 à 41. Donc 45, Jahmyr Gibbs, running back. 44, Khadija Kansi, defensive line. 43, Anton Harrison, lineman offensif. Steve Avila est 42e, lineman offensif intérieur. 41e, Luke Musgrave, tight end. On a, avec Khadija Kansi, un peu un phénomène qu'on voit assez régulièrement, qu'on pourrait appeler, entre guillemets, scout de helmet, mais c'est juste que parfois, il y a des joueurs qui nous rappellent d'autres joueurs. Et Khadija Kansi, ben écoute, c'est le défensif tackle explosif, rapide, productif, toujours plein d'énergie, qui arrive à faire plein de pénétrations, qui est très, toujours en mouvement, toujours impactant, que ce soit sur le jeu de passe ou sur le jeu de course. Sauf que Khadija Kansi, il est, entre guillemets, un peu trop mince, lui aussi. Et c'est vrai qu'au niveau des running backs, ça peut parfois être un problème. Au niveau des linemen intérieurs, ça se voit très, très vite. Et je le disais, il nous rappelle quelqu'un, c'est qu'il vient de Pittsburgh, et un defensive tackle très bon en pénétration, impactant sur toutes les actions, mais pas assez gros, ça nous rappelle un certain Aaron Donald à la sortie de sa draft. Est-ce que, je te pose la question un peu plus tactique, hein, mais c'est assumé, est-ce que Khadija Kansi est le nouveau Aaron Donald?
Bah, c'est sûr que cette comparaison, bah, déjà, elle est évidente, et puis ça risque aussi de le desservir, parce qu'être comparé à un des meilleurs de l'histoire, forcément, on va toujours dire « Ah oui, mais Donald, c'était mieux, mais si, mais là ». Mais sinon, si on regarde juste le joueur en lui-même, Khadija Kansi, il est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il manque de gabarit, mais comme tu dis, qu'est-ce qu'il est pénétrant, que ce soit pour aller mettre la pression et aplatir le quarterback, que ce soit également pour franchir la ligne de scrimmage, se débarrasser des linemen offensifs et plaquer le coureur avant même qu'il ne franchisse la ligne d'engagement. Parce que voilà, il est très rapide, il est très explosif et en plus il a des super mouvements. Voilà, c'est un joueur très technique. En même temps, c'est pas étonnant, c'est quelqu'un depuis son adolescence, depuis qu'il joue au football, il est habitué à être confronté à des gars bien plus imposants que lui. Donc forcément, ça l'a obligé à développer toute sa panoplie de moves, etc. Et il l'a. Donc du coup, oui, forcément, son jeu fait vraiment penser à Aaron Donald. Et puis en plus, ben voilà, il y a eu l'NFL Combine et donc du coup, il a poussé la comparaison jusqu'au bout puisque il a fait un sprint de 4,65 secondes sur 40 yards. Aaron Donald avait fait 4,68. Et voilà, je veux dire. Alors oui, eux, par contre, contrairement aux cornerbacks, ils ne vont pas sprinter sur 40 yards. Mais pour les joueurs de cette position, ce qui est important, c'est surtout le temps après 10 yards. Et là, c'est pareil. Il a fait comme Donald. Il a fait 1,64 alors que Donald avait fait 1,63. Donc voilà, c'est à peu près le même type de gabarit. C'est le même type de jeu pénétrant. Ils ont les mêmes qualités athlétiques. Et en plus, il est très technique. Donc, est-ce qu'il sera le nouveau Donald? Ça, évidemment, c'est tellement une grosse comparaison. Mais je veux dire, pour moi, ça va être un très, très bon joueur, en tout cas.
Oui, ben, c'est sûr que ça fait partie des joueurs. Lui, alors pour le coup, là, du coup, on disait il est plutôt dans les places 40. Mais tu me dis qu'il a fini au premier tour. je ne suis pas particulièrement étonné, là encore. C'est comme tous les ans, hein. On a beau avoir beaucoup d'avis, etc. C'est pas le top 30 de notre top 100 qui va finir au premier tour. On le sait, c'est comme ça. Donc c'est aussi intéressant d'en discuter. On continue à descendre un peu. On a en 40 Kelly Ringo, cornerback. En 39, Jalin Hyatt, receveur. En 38, Antonio Johnson, qu'on va appeler defensive back parce qu'il est très polyvalent. En 37, John Michael Schmidt, qui est un centre. En 36, Drew Sanders, qui est un linebacker. Et dans ces cinq-là, celui qui pose entre guillemets question, c'est Jalin Hyatt. Jalin Hyatt, donc menace profonde, comme on peut le voir parfois en NFL, qui a massacré tout sur son passage cette année en collège universitaire. Jalin Hyatt, est-ce que c'est un bel espoir qui ne concrétisera jamais, donc ça veut dire Will Fuller, ou est-ce que c'est DeSean Jackson ?
Ah oui, bonne question, oui. C'est vrai qu'à choisir, c'est mieux DeSean Jackson comme comparaison. Mais Will Fuller, c'est vraiment la comparaison qui lui correspond. Après, il ne faut pas oublier tous les problèmes de blessures qu'a eu Will Fuller, parce que sinon, lorsqu'il a joué, Will Fuller en NFL, il était quand même très très bon. Et d'ailleurs, tout le monde a retenu son nom, alors que finalement, quand tu regardes sa production, c'était pas énorme, mais tout le monde a retenu son nom. Pourquoi ? Ben, quand il jouait, ben, il a marqué les esprits. Parce que justement, il a ce profil-là de receveur très très rapide. Jalin Hyatt, je veux dire, il a marqué 15 touchdowns cette année avec Tennessee dans une conférence très relevée. Il en a mis 5 contre la défense d'Alabama, par exemple. Et puis, il a fait 67 réceptions et c'est 19 yards par réception. Donc oui, c'est vraiment cette menace profonde qui est si utile à NFL. Après, voilà, la question, c'est est-ce que Jalin Hyatt est juste une menace profonde, c'est qu'il est déjà pas mal, ou est-ce qu'il va pouvoir se développer, être un joueur beaucoup plus complet et être, allez, à minima, un très bon receveur numéro 2 en NFL ? Ça, on n'a pas encore la réponse, évidemment, et c'est tout le challenge qui va l'attendre.
Oui. Moi, je dois avouer que je suis toujours un peu réservé sur ces joueurs rapides. Parce que j'ai l'impression que c'est très rarement une réussite lorsque ça part en NFL. Donc bon, je vais pas le pénaliser pour la non-réussite des mecs avant lui. Mais malgré tout, je reste à me dire, est-ce qu'il serait pas destiné à être un joueur de slot ? Qui est pas forcément une mauvaise chose. Hein. On voit des joueurs de slot extrêmement compétent. Est-ce qu'il va réussir à prendre de vitesse des Golgothes comme on a en NFL ? Ça sera certainement un peu moins facile qu'il l'a fait en collège universitaire, même si tu le rappelles, il est dans la meilleure conférence. Hein, donc, il n'a pas affronté des peintres. Là encore, on est là pour l'instant, on parle de joueurs qui sont dans des conférences quand même très relevées. Donc, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a surtout dans une QV qui est quand même moyenne au poste de receveur, on va dire ça comme ça. Il y a lui et un autre joueur, dont on va parler juste après, qui peuvent, à mon avis, être des receveurs surprises de fin de premier tour. Il y a forcément quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai envie d'une dynamite comme ça, j'ai envie d'un playmaker. » Et du coup, bon, voilà, ça fait partie des joueurs, attention, à surveiller à partir du top 20-25. Il pourrait tomber assez rapidement pour une équipe qui a un besoin de receveur, notamment si, par exemple, un Addison et un Smith-Njigba sont partis. Je mets un peu de côté Quentin Johnson parce que ce n'est pas du tout le même profil physique. Donc là, après, est-ce que tu as envie d'un receveur puissant, physique, grand, ou est-ce que tu as envie d'une fusée ? Ce ne sera peut-être pas les mêmes équipes qu'on les envie, mais en tout cas, c'est assez intéressant d'en parler.
Oui, par exemple, tu vois les Chargers, comment tu peux exploiter au mieux le bras hyper puissant de Justin Herbert ? Ben, pourquoi pas un Jalin Hyatt, par exemple ? Même si au début de sa carrière, peut-être qu'il sera juste unidimensionnel. Mais bon, quelle dimension ? Attaquer la profondeur, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui a fait défaut aux Chargers en 2022. Donc oui, il pourrait intéresser des équipes et dès le premier tour.
Oui. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Même, tu vois, au pire du pire, en début de second tour, même un petit trade-up, tu vois, d'une équipe qui a besoin d'entourer, par exemple, un Houston ou ces équipes-là qui ont envie de donner des armes à leur quarterback, c'est fortement envisageable. On va continuer top 100 avec en 35e place Dawan Jones, l'énorme tackle de Ohio State. En 34, Jack Campbell. Bisous à toi, évidemment, Jack Campbell, linebacker. Mon chouchou, c'est déjà annoncé. En 33e, Adebawore, donc, qui est un lineman défensif, on va y revenir. En 32e, Blake Freeland, offensive tackle. Et en 31e, Isaiah Foskey, le edge de Notre-Dame. Alors, notre cher Adebawore, ou de son nom plus complet, Adetomiva Adebawore, qui est un joueur qui nous a surpris vraiment post-saison, on va dire. Il était déjà très bon dans la saison, mais il s'est vraiment, il a confirmé derrière tout son talent, au point qu'on en parle au premier tour, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était peut-être plutôt un joueur du fin de second tour, moitié fin de second tour. C'est un joueur qui est vraiment intrigant, parce que je n'ai aucune idée de où il sera le meilleur en NFL. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est censé être un defensive end. Sauf que c'est un joueur tellement hybride que tu peux l'imaginer en 5 techniques, tu peux l'imaginer en 4 techniques, tu peux l'imaginer à l'intérieur en 3 techniques, joueur un peu libre, capable justement d'être cette force un peu disruptive, je dirais, sur la ligne. Il peut jouer de partout. Il peut pénétrer la ligne à l'extérieur et à l'intérieur. Je trouve qu'on le voit plus régulièrement à l'intérieur. C'est aussi pour ça que j'aurais peut-être tendance à aimer le voir en trois techniques, voir ce qu'il peut donner. C'est un joueur avec une capacité athlétique énorme, endurance énorme, très puissant, même face à des gardes, même face à des gros bonhommes, il les bouge. Il n'a pas peur, il va au mastic, il met les mains, c'est vraiment impressionnant. Après, parfois, il lui manque un peu l'instinct du tueur. C'est-à-dire, ce côté, t'as fait la différence. Alors oui, tu vas gêner l'action, mais va même la finir. Va rentrer dans la tête du quarterback ou du coureur. Parfois, il est un peu soft là-dessus. Et puis, c'est un peu ses joueurs. Il est très bon partout, mais qui sera excellent quelque part, c'est toujours la question. Heureusement, c'est pas nous, c'est des gens beaucoup plus expérimentés et beaucoup plus, on va dire, talentueux que nous, que sont les coachs NFL qui vont avoir à régler ce problème. Mais avec ce fameux Adebawore, qu'est-ce qu'on a, Jean-Michel? Qu'est-ce que toi, tu as envie de voir? Est-ce que tu as envie de voir un 3 technique? Est-ce que tu as envie de voir un edge un peu setter? Qu'est-ce que tu vois en lui?
Bah, c'est vrai qu'un edge, je l'imaginais pas du tout comme ça, en regardant les matchs de Northwestern. Mais quand tu vois qu'il court le 40 en 40-49, quand tu vois tous ses tests athlétiques, donc il peut très très bien bouger. Donc pourquoi pas? Alors peut-être pas un edge qui correspondrait à une position de 7 techniques, mais plus en 5 techniques face au tackle. Donc c'est possible aussi, mais je pense peut-être un tout petit peu plus à l'intérieur. Mais alors du coup, ceux qui jouent contre lui, c'est pour ça qu'il pose question, c'est que il manque quand même de taille. Je veux dire, c'est vrai qu'il est très costaud. C'est vrai qu'il compense aussi cette taille avec une très bonne longueur de bras. Ce qui fait que pour l'allonge au niveau du duel, il arrive à bien placer ses mouvements de bras, ça lui sert. Et puis, comme tu l'as dit, il est puissant, donc ça joue contre lui quand même, ce déficit de gabarit. C'est pour ça que c'est pas une évidence. Mais bon, après, c'est quand même un très bon joueur de football. Il a prouvé à l'université, je veux dire, il a envoyé 9 plaquages pour pète l'année dernière, 8,5 l'année d'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment va au charbon, qui a un gros moteur. Il y a toujours une place pour ce type-là de joueur. Après, voilà, c'est vraiment quelqu'un. Comment dire, il faudrait qu'il tombe avec un coordinateur défensif un petit peu créatif, qui pourrait un petit peu le bouger, un petit peu plus vers le tackle, un peu plus vers le guard, pourquoi pas carrément entre le guard et le centre sur troisième tentative. Enfin, il va falloir un petit peu s'en servir comme d'une pièce d'échec, parce que et là, du coup, il pourrait être vraiment efficace. Après, c'est pas le joueur, on se dit, bon, ben voilà, lui, c'est bon, lui, c'est un edge rusher, lui, c'est un obstacle, lui. Adebawore, c'est vraiment un petit peu un joueur un peu hybride, quoi.
Oui, ben, je pense que tu vois, dans la NFL d'hier, il aurait peut-être un peu été dévalué parce qu'on était dans une NFL qui aimait bien quand même les spécialistes. C'était quand même, il fallait que chacun ait son rôle et fasse ce qu'on lui demande exactement comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que dans la NFL d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de défenses hybrides. Il y a beaucoup plus de joueurs hybrides, des joueurs qui sont moitié linebacker, moitié safety, moitié lineman, moitié linebacker. Tu vois, tous ces joueurs-là, ou alors nickel cornerback, safety, on a même vu des Malcolm Jenkins qui évoluaient sur 4 ou 5 positions. Aujourd'hui, il y a en effet une appétence, je trouve, pour les joueurs polyvalents qu'il n'y avait pas hier. Et du coup, je pense que ça va servir. Et on pourrait même, moi, de tous les joueurs dont on a discuté, c'est celui où on pourrait être surpris parce qu'il part en 17 ou en 18.
Ah ouais, quand même.
Ouais, moi je pense qu'il y a un monde où il est la surprise de la draft en fait. Parce qu'il y a un mec qui se dit, moi je sais exactement comment je vais utiliser.
Ouais.
Après je prends des risques, hein. Je prends des risques, on verra bien. On continue et on va finir cette première partie, entre guillemets, où on a été entre 50 et 25. Donc on a en 30e Deontay Banks, ce cornerback, en 29e Darnell Wright, le tackle, en 28e Zay Flowers, le receveur, en 27e Dalton Kincaid, le tight end, et en 26e Jordan Addison, le receveur. Et en parlant de receveur, on va un peu boucler la boucle, parce que c'est vrai que c'est un peu deux joueurs très comparables, et je pense que c'est important de les mettre l'un face à l'autre, entre guillemets, dans un podcast. Zay Flowers, donc de Boston College, joueur qu'on connaît bien parce qu'il est là depuis un moment. Il aurait même pu se présenter l'année dernière, il a choisi de revenir dans une université dont l'attaque n'est pas florissante, on va dire. Il a été un peu le phare dans la nuit. Zay Flowers, là encore, on a un joueur rapide, menace un peu profonde si on veut, peut-être pas aussi caricatural que Hayat. Zay Flowers, est-ce que c'est pas la définition même du joueur de slot?
Oui, sans doute, oui. Après, je pense qu'il peut tout faire. Il peut aussi jouer à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment le limiter qu'à ce rôle-là parce qu'il n'a pas un gabarit imposant. C'est possible aussi à l'extérieur. Il peut prendre la profondeur. Mais sinon, oui, le slot. Et puis, slot, de toute façon, ouais, c'est un terme. Quelque part, ça dénigre un peu, que ce soit pour les receveurs ou les cornerbacks. On parle de slot, on dit « Ah ouais, c'est qu'un slot ». Mais en fait, un slot, c'est hyper important. C'est hyper important.
Tu penses qu'on dénigre encore dans la NFL d'aujourd'hui le terme de slot? Parce que je veux dire, on voit des équipes où le receveur le plus productif, c'est le receveur dans le slot. Hein. Maintenant, c'est devenu presque commun. Hein.
Oui, voilà, mais moi j'ai l'impression que si ce n'était pas un terme qui dénigre, on ne parlerait même pas de slot, on dirait receveur, point. Mais bon, après, c'est possible aussi, on peut utiliser ce terme pour définir un petit peu sa position. Mais bon, de toute façon, Zay Flowers à Boston College, il a montré qu'il pouvait jouer à l'extérieur comme dans le slot, et il peut tout faire en fait. Et donc c'est très important à l'intérieur du terrain, parce que avec sa vitesse, je veux dire, il a une capacité d'accélération qui est incroyable. Donc même si c'est une petite passe dans une zone courte de 4-5 yards, ben après il peut en gagner encore 4 ou 5 rien qu'en accélérant, et même parfois beaucoup plus que ça. Et oui, Zay Flowers, ça pourrait être une surprise du premier tour, une surprise, parce que c'est un joueur très connu, mais on ne l'attend pas forcément, pas obligatoirement au premier tour, mais pourtant, ça fait 4 ans qu'il produit à l'université. Voilà, on voit bien la qualité de ses tracés, on voit bien, voilà, il fait tout bien au poste de receveur, en plus il a de la vitesse, il a plutôt des bonnes mains, c'est un joueur intelligent, donc il pourrait très bien lui aussi partir au premier tour. On parlait de Jalen Hyatt aux Chargers tout à l'heure, ben, pourquoi pas un Zay Flowers, ce serait un joueur vraiment très complet. Et quelque part, avec tout ce qu'il a montré à Boston College, en plus, tu le disais, avec un jeu au quarterback qui n'était pas extraordinaire, bah, tu te dis, quelque part, c'est une valeur sûre. Alors oui, valeur sûre et draft, ça ne va jamais ensemble. Mais voilà, lui te donne quand même beaucoup d'assurance.
Oui, bah, moi, je vais aller un peu plus loin que toi. Je pense que s'il évoluait à USC, il serait aujourd'hui au même niveau qu'Addison dans les mock drafts. Je pense qu'il n'y a que le fait d'être à Boston College qui te dessert. Quand tu vois les tests athlétiques, etc., qu'a fait Jordan Addison au Combine, moi, je ne suis pas particulièrement impressionné. Je pense qu'il a bénéficié d'un système qui lui était très favorable en université, dans une division qui est pas incroyable. Et je ne vois pas bien ce que Zay Flowers n'a pas par rapport à Addison, tu vois. Mm-hmm. Alors oui, on va me dire qu'il y a une petite différence au niveau de gabarit, mais quand bien même, moi, je pense que Zay Flowers, c'est un receveur ultra complet. Et j'ai presque envie de dire que moi, ça me choquerait. Si jamais tu me dis qu'il y a eu 4 receveurs au premier tour, je serais choqué qu'il n'y ait pas Zay Flowers dedans.
D'accord. Donc, pour toi, les 4, ça serait qui?
Alors, Smith Njigba, c'est sûr.
Ouais.
Addison, je pense qu'il finira par y être.
Ouais.
Et quatrième, enfin, et après Hayat ou Johnson.
D'accord, ouais. Et donc Zay Flowers qui pourrait prendre une de ces places-là.
Zay
Ouais.
Flowers qui prendrait la troisième ou la quatrième place avec ces joueurs-là. Ouais.
Oui, c'est fort possible. Ah ben oui.
Moi, je trouve qu'il y a un désamour pour ce joueur qui me surprend un peu. Alors peut-être que je suis trop haut sur lui, mais quand je vois sur le terrain, je me demande ce qui lui manque par rapport à un Addison. Tu vois, par rapport à un Smith-Njigba, je vois. Parce que moi, Smith-Njigba, je l'ai très haut. Je pense que la qualité de tracé de Smith-Njigba est inégalable dans cette draft. Johnson, bon, encore une fois, c'est un profil tellement différent que je ne sais pas si ça vaut le coup de les comparer, parce que c'est vraiment deux ressources totalement différentes. Mais par rapport à Addison, je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence.
Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et quelque part, tu vois, les meilleurs receveurs de cette QV, ils ont tous à peu près le même gabarit. Hein. À part Quentin Johnson, qui est vraiment très grand, mais
Ouais, c'est
sinon, tous
ça.
les autres, ils sont pas très grands, plutôt vifs, avec des bonnes mains, qui courent des bons tracés. Et quelque part, c'est ce qu'on demande à un receveur. Hein. On lui demande pas forcément d'être costaud, hein, mais on lui demande d'être précis dans les tracés pour que le quarterback sache très bien où il va aller, qu'il ait confiance en lui, dans ses tracés, qu'il peut anticiper même son tracé. Et ensuite, on lui demande bah, d'attraper le ballon, hein, c'est quand même la base, et puis ensuite bah, de gagner des yards. Donc oui, que ce soit Addison ou Zay Flowers, ils sont tout à fait capables de le faire. Donc oui, c'est de très belles options, voilà, comme tu disais, c'est pas une QV extraordinaire, celle de receveur, mais il y a quand même de très bons joueurs là pour faire avancer une attaque. Hein.
Non, je suis d'accord avec toi. Et ça conclut notre premier podcast. Donc, on est allé de 50 à 26 pour ce premier podcast. Et on se retrouve dans 2 jours pour vous parler du top 25. Donc là, évidemment, on va rentrer vraiment dans la zone premier tour presque assuré pour une grande majorité de ces joueurs-là et des débats qui promettent d'être brûlants. Merci Jean-Michel.
Merci Victor, bonne journée tout le monde.
Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 jours. Salut, salut!
Allez, ciao.